Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Théo Fouchéneret. Bonjour.
Bonjour.
Je vous reçois notamment à l'occasion d'un concert qui sera donné le 21 octobre prochain au Bouffe du Nord. Un concert dans le cadre de la Belle Saison qui sera également donné le 19 janvier à Arles et le 6 février à Albi autour des romances de Chostakovitch. On va en parler de cette romance sur des poèmes d'Alexander Bloch. Mais ce sera encadré par des œuvres aussi de très grande envergure puisqu'il y a notamment le quintette de Franck pour piano et cordes, la chanson perpétuelle de Chausson et le trio numéro 1 de Chostakovitch, donc le petit trio.
Tout à fait, ouais.
Donc le cœur de ce concert, c'est votre trio, le trio Messiaen.
Voilà.
Et vous serez rejoint par d'autres musiciens, Marion Tassou, soprano, Juan Miguel Hernandez à l'alto et Alexandre Pascal au violon. Ce sont des musiciens avec lesquels vous avez déjà travaillé?
Alexandre, on le connaît assez bien. Marion et Juan Miguel Hernandez, ce sont des idées aussi de Antoine Manceau, directeur de la Belle Saison, de manière, oui, à faire un programme original. On a eu l'occasion déjà de roder un petit peu le programme, et c'est des musiciens absolument merveilleux.
Programme franco-russe conséquent, puisque ça commence par ce trio numéro 1 de Chostakovitch, qui est le petit trio, mais qui est quand même déjà redoutable.
Je trouve ça formidable, moi, justement, parce que c'est un trio qu'il a composé à l'âge de 16 ans. Et on sent déjà tout le talent de Chostakovitch, l'art de créer des atmosphères uniques. Oui, on l'aime beaucoup parce que ça met en miroir deux visages de Chostakovitch, donc le très jeune et la toute fin aussi, avec les romances juste après. On trouvait ça intéressant de donner ces deux portraits du compositeur qui n'est pas si souvent dévoilé de cette manière-là.
Ces romances qui avaient été créées par d'immenses musiciens en 67, puisque de mémoire, je crois qu'il y avait Galina Michevskaya, Rostropovitch, proches de Chostakovitch et que d'immenses musiciens. C'est une œuvre que vous avez écoutée avant de la jouer au sein du trio?
Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en concert. Et ça a été un vrai choc pour moi. Et donc après, ça a été quelque chose que... Oui, j'ai proposé, j'ai directement parlé de ça quand on cherchait des œuvres en trio et voix, parce que c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de répertoire.
Mais oui, en préparant cet entretien, excusez-moi de vous interrompre, je réfléchissais, mais je ne vois pas ce qu'il y a pour ce répertoire.
Non, il n'y a pas grand-chose. Alors du coup, ça a été assez évident, ces pièces-là, parce que c'est une expérience en concert. En plus de ça, ça prend vraiment son sens.
Pour nous, spectateurs, effectivement, c'est à la fois magnifique, c'est poignant, et puis en même temps, c'est une œuvre où chaque mouvement est interprété par un ensemble différent, les quatre se réunissant à la fin, mais tout au long du morceau, vous jouez de manière
séparée,
avec des alliances séparées.
Tout à fait.
Et au niveau du pianisme, vous, Théo Fouchéneret, c'est un compositeur que vous avez joué, Chostakovitch, en pianiste
Uniquement en musique de chambre. J'ai fait le petit trio, les romances. J'ai récemment joué la sonate pour alto, qui est sa dernière œuvre, qui est aussi un peu dans la même veine et qui est...
Hommage à Beethoven.
Exceptionnel, cette sonate. Ouais, c'est truffé des collages à la Schnittke, un petit peu. C'est un compositeur que j'apprécie vraiment réellement. En tout cas, je l'ai découvert toujours par le biais de la musique de chambre et il m'est assez cher, en tout cas.
Alors, le cœur de ce concert, au niveau des interprètes, c'est votre trio, le trio Messiaen, un trio que vous avez créé en 2013, aux côtés de David Petrnik au violon et de Volodia von Keulen au violoncelle. Donc, vous étiez quoi, au conservatoire ensemble?
Tout à fait, c'est une rencontre sur les bancs du CNSM. On s'est rencontrés d'abord aussi avec Raphaël Sévère, donc on était un ensemble à la base.
Avec lequel vous avez enregistré donc, le quatuor pour la fin du temps,
ça.
Et une œuvre de Thomas Hadès.
Tout à fait. Et petit à petit, on s'est quand même dit que le répertoire de trio était tellement vaste qu'il fallait qu'à un moment donné, on s'y plonge. On ne pouvait pas rester en surface de cette énorme production. Et donc, du coup, c'est devenu un trio. Et puis, entre-temps, on était à la Fondation Polignac aussi, par le biais de 10 petits Devoise. Donc oui, c'est un ensemble qui se connaît bien et c'est une rencontre, c'est de l'amitié essentiellement.
Voilà. Vous avez pris le nom de Messiaen. Alors justement, ça va à l'inverse, parce que le trio, c'est quand même un ensemble qui est très lié au 19e siècle. Bien sûr, on commence avec Haydn, fin du 18e, mais une multitude de chefs-d'œuvre au 19e. Et des compositeurs comme Schoenberg, Bartok, par contre, ne vous ont pas laissé d'héritage. Donc c'est un ensemble qui est très lié à une période, et vous prenez le nom de Messiaen.
C'est vrai, parce que l'acte fondateur, c'était le quatuor pour la fin du temps. Et en plus de ça, c'est parce que je pense qu'on a tous entre nous ce lien fort avec la musique du XXe siècle. Je pense que c'est une période qui nous passionne. Alors on est toujours évidemment déçus de ne pas avoir plus de choses justement de Bartok où bon, on a pu faire les contrastes un petit peu avec Raphaël.
Oui, mais alors vous en chassez un.
Voilà, c'est ça, on est toujours obligé de. Mais ça nous permet aussi de garder un lien fort avec le XXe et c'est quelque chose de très important pour nous de rester aussi dans la création musicale. Et...
Alors, on
Voilà.
parlait de ce disque, justement, votre premier disque pour le label Mirare, avec ce quatuor pour la fin du temps, un disque absolument merveilleux, avec aussi des études de Thomas Hadès
Oui.
sur la tempête. Ça aussi, c'était un beau couplage.
Oui, c'est une introduction assez merveilleuse pour nous, en tout cas, avant le Messian. Ça plonge tout de suite dans cette ambiance particulière parce que c'est une formation qui sonne de manière particulière. Donc on s'est dit que c'était une assez bonne introduction au
Et alors,
Messian.
comment ça se passe? Parce que moi, je vois votre itinéraire, ce concours de Genève, et puis d'autres prix, et puis votre itinéraire de soliste. En même temps, il y a ce trio Messiaen, et puis les deux autres qui, eux aussi, ont leur propre itinéraire. Et comment vous arrivez à travailler, à répéter, à construire un répertoire?
C'est beaucoup de travail. Après, moi, justement, dans mon itinéraire, j'ai plutôt commencé. Je suis un musicien qui est arrivé aux choses par la musique de chambre.
C'est un peu de famille, la musique de chambre, parce que quand on voit votre
Ouais,
frère
tout à fait.
Pierre aussi, lui est très
Il n'arrête
ancré dans la
pas,
musique de
ouais.
chambre.
C'est quelque chose qu'on pourra jamais. C'est ce qui nous touche le plus, je pense, lui comme moi. Donc en fait, moi, oui, j'ai plutôt cette trajectoire-là. J'aime découvrir les choses par la musique de chambre. Donc ça nourrit mon jeu de soliste énormément. Et l'inverse est vrai aussi.
Vous parlez de nourrir votre jeu de soliste, mais il y a une œuvre qui vous tient à cœur, bien sûr, un des grands chefs-d'œuvre pour piano, qui est la sonate Hammerklavier. C'est né comment cet amour pour cette sonate?
Alors, je pense que c'est venu quand j'avais probablement... J'ai dû la découvrir réellement quand j'avais 16, 17, 18 ans. Et c'était à la base mon amour pour Wilhelm Kempff, qui est un pianiste allemand exceptionnel, enfin voilà, qui était probablement mon pianiste préféré à l'époque et qui est toujours très haut aujourd'hui dans mon cœur. Et je l'avais écouté faire ça. Et
Vous ne l'avez pas écouté en concert, vu votre
non, non,
âge.
non, mais il y a un live exceptionnel sur YouTube que je conseille à tout le monde, où il en parle d'ailleurs aussi. Et je me suis aperçu que c'était. Peut-être la plus grande sonate que Beethoven ait écrite. Et voilà, j'ai toujours été fan de défis musicaux. Voilà, donc je me suis lancé là-dedans. Je l'ai joué pour mon prix déjà au CNSM, donc il y a 5 ans. Et
Vous l'aviez travaillé avec qui?
avec ma professeure Hortense Cartier-Bresson, et je l'avais aussi joué à d'autres personnes. Mais pas beaucoup de pianistes l'ont joué, donc c'est difficile de trouver des gens effectivement qui ont l'expérience dessus. Mais il y en a quand même.
Donc, pour vous, le plus grand chef-d'œuvre pour piano de Beethoven, mais ça manque pas quand même dans les sonates de Beethoven, les dernières sonates, ou même toutes les sonates, ou les variations
Oui,
d'Abélie.
c'est sûr.
Et votre cœur vous mène vers la Hammerklavier systématiquement.
Bah, le mouvement lent, la fugue que je trouve exceptionnelle. C'est vraiment c'est un Beethoven qui annonce énormément de choses aussi. C'est un Beethoven fondateur pour la suite de sa vie. Et oui, c'est une sonate qui me touche énormément de ce point de vue-là.
Enfin, vous parlez bien sûr du mouvement lent qui est absolument bouleversant, mais quand on voit un pianiste, on écoute un pianiste jouer cette œuvre, on a l'impression d'un affrontement avec le piano. Nous, en tant
Ouais.
qu'auditeurs,
Oui,
il y a ça aussi, il y a une nécessité, parce que ce n'est pas une virtuosité comme chez Liszt ou d'autres, ou chez Chopin, une virtuosité qui serait peut-être valorisante pour le pianiste et puis qui emporte. Là, c'est une virtuosité, c'est presque une lutte contre l'instrument.
Ah oui, il fait aucun cadeau Beethoven dans cette sonate. Mais en même temps, en fait, j'ai tendance à dire, c'est pas ce qui est frappant dans Hammerklavier, c'est qu'il y a énormément de notes, mais ce n'est pas de la virtuosité. Chaque note est essentielle. Donc c'est pour ça que cette sonate devient très difficile, c'est qu'on ne peut pas justement englober des gestes musicaux dans une grappe virtuose parce que le public et nous, on a besoin de ressentir le poids de chaque note qui est écrite parce qu'elles sont nécessaires, parce que Beethoven met une telle pression aussi pour qu'on le fasse. On le sent dans l'écriture de cette sonate qu'il y a une nécessité vitale sur chaque note, en fait,
Oui,
quasiment.
parce qu'il
Ouais.
y a une densité, effectivement.
Mais.
Alors pour vous, pianiste, c'est une épreuve physique. Et pour nous, auditeurs, c'est une intensité qui épuise d'une autre manière,
Oui,
émotionnellement, cette Hammerklavier.
c'est sûr que c'est quelque chose, je m'en rends compte à chaque fois que je la joue, c'est Ça ne s'arrête pas en fait. C'est vraiment, c'est, je pense que les gens sont parfois peut-être un peu choqués parce que le contraste effectivement entre la longueur de l'adagio et la sortie très brusque sur la fugue un peu déjantée, c'est vrai que ça fait un choc assez énorme.
Avec cet adagio qui commence par ce fameux accord que Beethoven avait ajouté après coup,
C'est ça.
ça fait tenir tout l'adagio pour vous, ce début. Enfin, c'est vrai qu'on se dit s'il n'y avait pas ça, ce serait complètement différent.
Ah oui, parce qu'en plus de ça a un sens fort, parce que toute cette sonate, finalement, c'est 50 minutes de tierce, quoi, si on le prend du point de vue de l'analyse, c'est fou. Et qu'il rajoute celle-ci, effectivement, ça. Bah, c'est vrai que c'est le petit truc qui fait que ça fait basculer la sonate dans une autre dimension, c'est vrai.
Les trios de Beethoven, vous les jouez au sein du trio Messiaen?
Non, pas beaucoup encore. On fait un petit peu l'opus 11 à la clarinette et on a pas mal joué le triple
Ah oui, c'est vrai que vous
concerto.
êtes toujours avec la clarinette,
Voilà, c'est
avec
ça.
Raphaël
C'est
Sever.
ça. Et le triple, on a fait surtout le triple concerto.
Mais effectivement, les trios, on est quand même dans une autre dimension. Ils sont magnifiques, les trios de Beethoven, mais c'est une autre dimension intellectuelle que. À part peut-être les esprits ou l'archiduc, mais c'est des œuvres encore un Beethoven. Enfin, les premiers trios, et c'est immensément mélodique, ça emporte aussi.
C'est vrai qu'ils sont pas. Il y en a certains qui sont pas aussi joués. Mais c'est une. Oui, c'est quand même. C'est vrai qu'il y a les trois premiers
Sont
qui
magnifiques.
sont exceptionnels. Ouais. C'est l'opus 1 d'ailleurs, si je me trompe pas. Et effectivement, les trios de Beethoven sont des pièces qu'il faut absolument qu'on fasse, mais il y a beaucoup de choses.
Et comment ça se passe justement alors pour le choix du répertoire? Parce que là, par exemple, on parlait de ce concert autour des romances de Chostakovitch avec Marion Tassou, Juan Miguel Hernandez à l'alto et Alexandre Pascal. Il y a ce qu'on vous demande, les organisateurs de concerts vous demandent. Et vous, moi, je me souviens, par exemple, vous avoir écouté aux Invalides. Vous aviez joué le deuxième trio de Schubert de mémoire. Enfin, je ne parle pas vous de mémoire, mais moi de mémoire. Et puis le deuxième trio de Mendelssohn. Ça se passe comment pour vous allez au gré des œuvres pour lesquelles vous vous sentez
Oui,
mûr
c'est des envies. Ouais. Je crois que c'est vraiment. Après, il faut que ce soit commun. Si on est trois à décider, puis ça, il faut aussi prendre en compte ses qualités, parce qu'il faut avoir un recul sur le groupe avant de choisir une œuvre. Et soit aller donc vers quelque chose qui nous correspond bien. Soit travailler des choses qui nous correspondent peut-être pas forcément aussi bien, mais dans le but de progresser, quoi. Donc on essaye toujours de maintenir cet équilibre entre recherche et plaisir quand même sur scène.
Et alors, le trio, l'art du trio, vous l'avez travaillé avec qui alors?
Essentiellement François Salk au Conservatoire de Paris, au CNSM, en résidence à classe.
Vous n'avez pas travaillé avec des Pressler ou compagnie ou des gens
J'ai pas eu la
représentatifs du
chance de le
trio?
rencontrer, malheureusement. C'est vrai que ce serait. Bah, non, non, mais alors on est des produits assez français au final.
Alors, français, avec ce programme très russe, quand même, on va parler de Franck et Chausson, mais qui commence par Chostakovitch, premier trio, et puis les sept romances sur les poèmes d'Alexander Bloch. Comment ça se passe? Alors, Marion Tassou, qui est une magnifique soprano, qui va chanter en russe,
Je
c'est.
crois savoir que c'était un sacré boulot pour elle. Ouais. Elle est allée voir des gens, mais elle fait ça incroyablement bien, je trouve. C'est un vrai régal de faire cette musique avec elle. Effectivement, je crois que chanter le russe, c'est vraiment pas commode.
En même temps, elle se met à rude épreuve parce qu'il y a ça, et puis après, il y a la chanson perpétuelle de Chausson sur un poème de Charles Cros, qui est aussi une œuvre sublime, mais c'est un univers totalement différent.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a deux parties dans le programme assez tranchées. Ouais. Franck Chausson, c'était l'occasion de montrer justement diverses facettes de l'ensemble. Et puis, oui, on voulait pas forcément aller dans un programme, parce qu'on aurait pu faire le quintet de Chostakovitch ou ce genre de choses, mais on voulait varier. Et le Chausson, en plus de ça, est une œuvre. Dans un sens proche des romances, dans l'intensité émotionnelle, en tout cas sur le moment du concert. C'est vraiment quelque chose d'assez bouleversant, cette pièce, pour terminer.
Ah oui, non, mais
Mais.
ça, vous nous habituez à une intensité émotionnelle, Théo Fouché-Narey. Et puis, il y a ce quintet de Franck. Alors, ça, en tant qu'auditeur, c'est toujours aussi un bonheur. Mais ça aussi, pour le pianiste, vous mettez à rude
Ça,
épreuve
c'est
aussi.
coton. Bah, c'est un piano. C'est le Franck, et oui, on sent tout à fait qu'il était organiste, quoi. Donc, il ouvre les tiroirs à son, et puis c'est c'est à nous de nous débrouiller pour faire sonner tout ça. Mais ça, c'est un vrai plaisir à faire. Dans la facture pianistique, c'est un plaisir immense. Et puis, ouais, quel début aussi dans ce quintet.
Oui, ça aussi, on plante tout de
Ouais,
suite
c'est.
un
Ouais.
décor avec
Ouais.
les pianos et puis les cordes.
Ouais. Moi, c'est la première fois que je le faisais. En tout cas, je l'ai monté pour ce programme. Et c'est vrai que une joie énorme de jouer ça.
C'est un programme dans le cadre de la belle saison où les Bouffes du Nord se partagent avec d'autres institutions. On parlait d'Arles, Albi, et puis il y a des concerts pour d'autres formations, Coulommiers et d'autres lieux. C'est formidable d'être dans cette saison de la belle saison, parce que quand on voit en quelle compagnie vous êtes.
C'est vrai que c'est assez rare en fait ce genre de choses parce que comme je vous disais on a déjà joué beaucoup de fois le programme donc c'est y a, en fait il n'y a pas meilleur moyen de progresser que sur un programme que de le jouer et la belle saison nous permet de faire ça donc de tourner avec un seul programme dans leur réseau de salles et c'est vraiment c'est unique de pouvoir faire ça c'est un
Alors, il y a
luxe
ce
ouais.
concert donné aux Bouffes du Nord, puis à Arles, puis à Albi. Et puis à vous, Théo Fouchéneret, vous serez en récital, notamment au Gewandhaus de Leipzig, à l'Altenburg de Weimar. Aussi, là, vous retrouvez la Hammerklavier.
Tout à fait. Je vais aller jouer ça en Allemagne. On verra comment ils sont réceptifs
Bah, je pense
ou
que c'est un éclairage. Enfin, un des grands pianistes de Bussy, c'était Walter
C'est
Gieseking.
vrai, vous avez raison.
Donc, je pense que il y a un éclairage différent donné par des pianistes d'origine étrangère. Mais enfin, je ne vais pas tomber dans les clichés.
Non, vous avez
Et
raison.
puis, alors, quand vous jouez la Hammerklavier, il y a des concerts où vous allez le donner, par exemple, avec des Nocturnes de Forêt et du Liszt. Comment vous choisissez de construire un programme autour d'une œuvre pareille? Il faut que ça contraste absolument, ou alors il y a un lien direct.
C'est difficile de répondre à cette question. J'ai choisi effectivement pour ces deux concerts-là de trancher. Voilà, de dévoiler aussi mes autres passions, donc Forêt, Bartok
Et
et
liste.
Liszt, effectivement. Qui est en fait, c'est une première partie qui se tient en soi, je trouve. Il y a un vrai lien fort entre ces pièces-là, composées quasiment, enfin, pas très loin dans le temps. Et c'est vraiment. La Hammerklavier est considérée comme une seconde partie à part entière, en tout cas.
Oui, bah ça,
Ouais.
on ne vous voit pas jouer la Hammerklavier et puis trois sonates de Chopin
Non.
en plus. Théo Fouchéneret, vous parlez de Forêt, votre trio Messiaen, il joue le trio de
Tout à
Forêt.
fait, on le joue énormément, parce qu'on l'adore.
Je crois que c'est une des dernières œuvres, si ce
Il
n'est
me
la
semble que
dernière œuvre
c'est
de Forêt.
l'avant-dernière, ouais.
Et oui, c'est bouleversant.
C'est
Mais alors ça, vous le jouez tantôt avec clarinette ou tantôt...
Non, ça c'est réservé au violon. Mais non, c'est très beau à la clarinette aussi, mais on l'a toujours fait au violon. Ouais. Voilà.
Pour en revenir à votre disque paru chez Mirare, où vous étiez aux côtés de Raphaël Sévère pour le Quatuor pour la fin du temps et cette œuvre de Thomas Adès, ça aussi, le Quatuor pour la fin du temps, c'est des œuvres bon, qu'on écoute au disque, la Hammerklavier ou autre, mais il y a une relation spéciale. Là, on parlait des romances de Chostakovitch sur des poèmes de Bloch, d'Alexander Bloch. C'est aussi des œuvres pour lesquelles le concert ajoute vraiment quelque chose, une
C'est sûr.
intensité.
Ça fait partie effectivement de ces pièces uniques en concert parce qu'elles sont très proches dans leur manière d'agencer le temps en fait. Moi, je vois souvent quand je joue le quatuor pour la fin du temps la manière dont Messiaen arrive à faire baisser le rythme cardiaque de la salle entière. En fait, c'est quelque chose d'unique et Shostakovich a ce don aussi pour créer des atmosphères extrêmes, je vais dire. Voilà, c'est vraiment des expériences de concert. Et le CD, c'est génial aussi pour photographier des choses, mais
Pour
ça,
photographier, et puis
voilà.
pour nous, auditeurs aussi, pour connaître des œuvres, parce que il y a un bonheur de connaître une œuvre avant de la réécouter au
C'est
concert.
ça. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment s'il doit y avoir une vérité de l'instant, c'est ça se joue au concert, probablement.
Et donc, il y a aussi ces concerts où vous jouez avec votre frère Pierre Fouchéneret, qui lui aussi est intégré à cette saison, mais pas
Ouais.
avec vous,
Non.
de la belle saison. Et comment ça se passe quand vous jouez avec votre frère? Vous organisez des programmes ou alors vous vous mettez l'un et l'autre à jouer ensemble, vous feuilletez des partitions et...
Non, on organise des programmes en fonction, parce qu'en fait, on n'a pas tant joué que ça ensemble. Pierre a, vu qu'on a pas mal de différences d'âge, et Pierre a tenu à ce que je me développe de mon côté, il voulait pas pousser trop tôt. Et donc non, mais bon, on se connaît tellement bien que maintenant c'est vrai que quand on répète, y a rien de, on fait rien de particulier. C'est vrai qu'on joue et on se comprend très bien, sans trop échanger, forcément.
Comment ça se passe avec le trio, puisque vous travaillez bien sûr énormément ensemble en amont, et dans l'instant du concert, il peut y avoir des instants où l'un ne change pas de route, mais quand même change une intensité ou un
Bah
tempo.
oui, on a un cadre qu'on travaille en répétition et j'aime toujours penser que le cadre aide à apporter une liberté. C'est comme ça que je conçois les choses. Donc quand en concert, il y a une proposition, et ben je pense qu'on se connaît suffisamment pour essayer de réagir, en tout cas, et ça peut apporter des moments spéciaux.
Alors Théo Fouchonneret, juste au risque de vous faire rougir, on va revenir à vous, juste en s'éloignant du trio Messiaen. Vous avez remporté il y a peu ce prix au concours de Genève. Bon, il y a des prix plus ou moins importants. Celui-là est un prix très important qui, j'imagine, a dû vous apporter beaucoup. Et là, vous êtes. C'est quoi? Il y avait une exigence de répertoire particulière pour passer ce concours?
Il y avait, c'est vrai que c'est un concours que moi j'avais ciblé parce que je trouvais que le programme était vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait une part belle faite à la musique du 20e. Il y avait des sonates de Beethoven, il y avait du Debussy. Enfin, c'était un programme assez varié. Il n'y avait pas les sempiternelles études à jouer. Il y avait quand même toujours des choses à. Il fallait démontrer des choses, mais je trouvais qu'il y avait énormément de place pour proposer quelque chose de personnel. Et c'est pour ça que j'ai fait ce concours. Et bon, ça m'a bien réussi.
Bah oui. Et alors, vous avez joué la Hammerklavier à ce
Non,
concours?
j'ai pas joué à la Hammerklavier, mais non, j'avais joué. Par contre, j'ai joué Petrouchka en demi-finale, qui était aussi un de mes autres défis de jeunesse. C'est pour d'autres raisons,
Oui.
mais c'était un moment très sympa
Et
de pouvoir faire ça.
le Petrouchka aussi, il y a un aspect aussi, non pas de virtuosité, mais enfin de défi
Il y a le
aussi.
défi physique, ouais. Ça, c'est de la musique géniale, mais c'est pas écrit pour piano. Et Stravinsky a pourtant fait
D'ailleurs, je
ça.
crois que c'était écrit pour Rubinstein. Je ne sais même pas s'il l'a joué,
Oui, il l'a
Arthur
jamais joué, je crois
Rubinstein.
pas. Peut-être
Oui. Il y
pour
a
lui,
beaucoup d'œuvres
mais.
qui lui ont été dédiées. Je ne suis pas sûr qu'il les ait toutes
Non.
jouées.
Ah, celle-là est particulièrement vache, quand même, pour le
Redoutable.
pianiste. Faut la travailler beaucoup. Mais on voit de plus en plus de pianistes qui la jouent, hein. C'est pas insurmontable, mais ça
Ça
demande du
vous
boulot.
permet d'ailleurs de jouer des compositeurs qui n'ont pas composé pour la formation du trio. On parlait de
C'est vrai,
Stravinsky,
ouais.
vous jouez du Bartok. Bon, Liszt, il y a des œuvres enfin, mineures pour le
Oui.
trio par rapport à son corpus. Donc il y a un aller-retour comme ça entre compositeurs.
Ah bah oui, j'ai besoin de varier, et puis j'ai la chance de faire du piano, donc ça me permet de le faire. Mais c'est sûr que le concours de Genève, en tout cas, m'a permis de m'assumer en tant que pianiste soliste, parce que j'étais un chambriste avant de passer ce concours. Et le but, c'était de développer ça. Et je suis vraiment ravi de pouvoir le faire, d'avoir la chance de pouvoir le faire, en tout cas, d'équilibrer les deux.
Mais on a l'impression d'ailleurs, vu de l'extérieur, que le fait de faire beaucoup de musique de chambre, pour un pianiste, ça donne un jeu parfois, enfin, bon, pas forcément, ça peut être aussi un cliché, mais parfois plus riche ou plus intéressant. On parlait de Pressler, par exemple, le fait
Oui,
d'avoir
ah
fait
bah oui.
pendant 60 ans du trio, une fois qu'il s'est remis à jouer du piano tout seul, il y avait quelque chose, enfin une empreinte. Le fait de jouer constamment avec un violon et un violoncelle, ça doit aussi avoir une incidence sur votre manière de jouer quand vous jouez seul.
Je pense, parce que pour moi, la musique, c'est quand même transmettre un imaginaire. Et quand on connaît pas de près, par exemple, si, enfin, les instruments. Moi, je peux, enfin, quand je suis pianiste et que je vais tenter d'avoir un son qui se rapproche, je sais pas moi, du cor ou bien du violon, il faut que j'aie joué avec ces instruments, il faut que je les connaisse bien pour pouvoir imiter, en quelque sorte. Et si on n'a pas ce bagage, je trouve, c'est plus difficile. Le jeu devient moins riche, en fait, moins intéressant. je pense.
Pour en revenir et pour terminer avec ce concert du 21 octobre prochain, qui sera donné à nouveau le 19 janvier à Arles et le 6 février à Albi, là c'est le 21 octobre, dans cet écrin magnifique des Bouffes du Nord. Donc il y aura Marion Tassou, qui est une merveilleuse soprano. Vous êtes moins habitué à jouer avec des chanteurs quand même.
J'ai fait un petit peu, c'est vrai que c'est pas tous les jours. Et c'est le chant, moi j'en écoute très souvent depuis tout petit. Mais j'ai pas eu la chance de... C'est un travail particulier de travailler avec les chanteurs. Mais Marion, elle était altiste, il me semble, avant de faire du chant. Donc c'est très agréable de travailler avec elle, parce qu'on a les mêmes codes de langage, on va dire, en répétition.
Bon, en tout cas, c'est un programme particulièrement excitant qui sera donné le 21 octobre prochain. Quintette de Franck, chanson perpétuelle de Chausson, premier trio Chostakovitch et ses sept poèmes, romans sur des poèmes d'Alexander Bloch. Merveilleux programme. Donc vous serez, vous, Théo Fouchenray, avec vos deux complices du trio Messian, David Petrlik et Volodia Van Kelen, aux côtés de Marion Tassou, bien sûr, et de Juan Miguel Hernandez et d'Alexandre Pascal. Juste pour terminer, Juan Miguel Hernandez, vous me disiez hors micro qu'il était l'altiste du Quatuor Fine Arts.
Tout à fait. Oui.
Aussi un grand chambriste.
Ah oui, oui. Et ça se ressent immédiatement. Moi, c'était un peu pas loin d'être un de mes quatuors préférés, le Fine Arts. Et Ron Miguel était arrivé un petit peu sur la fin du Quatuor Fine Arts. Et je l'ai d'abord rencontré parce qu'il faisait le concert de Chausson avec mon frère. Et j'avais vraiment flashé sur Celtiste, entre guillemets. Et voilà, du coup, Antoine a eu la bonne idée de nous associer.
Oui, d'ailleurs, Chausson qui est aussi une œuvre redoutable pour le pianiste. Je ne sais pas si vous jouez ça.
Le concert de Chausson, si, beaucoup. Avec mon frère, justement.
Bien, bah écoutez, on va vous laisser avec toutes ces œuvres monstrueuses. En tout cas, de toute façon, il y a le répertoire pour trio ou autre.
Oui, tellement... on est obligé d'y passer, hein, de toute façon.
Voilà. Et bah Théo Fouchenray, on se réjouit de vous retrouver.
Merci beaucoup.
Dans tous ces concerts, et notamment ce concert du 21 octobre prochain. Il me reste à vous remercier beaucoup d'avoir été mon invité.